Walter Scott, Quentin Durward. Chapitre 25. La mort du sanglier. Un silence de mort plana bientôt sur la grande armée qui assiégeait Liège. Longtemps, les cris des soldats, répétant leurs signaux et cherchant à rejoindre leurs bannières, avaient résonné comme des hurlements de chiens perdus qui cherchent leur maître. Mais à la fin, harassés par les fatigues du jour, les soldats dispersés se groupaient sous le premier abri qu'ils rencontraient, et ceux qui n'en trouvaient pas se couchaient le long d'un mur, d'une haie, attendant le matin, que beaucoup d'entre eux ne devaient pas voir. Ils tombèrent presque tous dans un profond sommeil, excepté ceux qui, tant bien que mal, montaient la garde près des logis du roi et du duc. Les dangers et les espérances du lendemain, même les rêves de gloire qui avaient fait naître dans les esprits des jeunes chevaliers, le haut prix offert aux vengeurs de l'évêque, étaient sortis de leur mémoire lorsqu'ils s'étendirent sur le sol, harassés de fatigue. Durward, lui, n'avait rien oublié. Il savait que lui seul avait le moyen de reconnaître la marque dans la mêlée. Il se souvenait de quelle main lui venait cette information, qui, par elle-même, était comme un encouragement et un heureux présage. Il sentait que la fortune, en le jetant dans une crise terrible et dont l'issue était douteuse, lui offrait pourtant une chance d'en sortir à son honneur. Comment aurait-il pu dormir, lorsque tous ses nerfs étaient tendus avec une vigueur à défier toute fatigue? Posté par l'ordre express du roi au point extrême entre les campements français et la ville, à droite du faubourg dont nous avons déjà parlé, il regardait de tous ses yeux pour pénétrer la masse obscure qu'il avait devant lui, et écoutait de toutes ses oreilles pour saisir le moindre son qui annoncerait un mouvement dans la ville assiégée. Les grosses horloges de Liège avaient successivement sonné 3 heures après minuit, et rien ne bougeait. Il avait fini par croire que l'attaque avait été différée jusqu'au point du jour. Tant mieux, car il reconnaîtrait plus sûrement les armes de Dunois sur la poitrine de Guillaume de la Marck. Tout à coup, il crut entendre, derrière les murs de la ville, un bourdonnement semblable à celui des abeilles, quand elles se réunissent pour défendre leurs ruches menacées. Il tendit l'oreille. Le bruit continuait, mais si vague et si indistinct que ce pouvait bien être, après tout, que le murmure lointain du vent dans les arbres, ou celui d'un ruisseau gonflé par les pluies qui se jetaient dans la Meuse, avec plus de fracas que d'habitude. Ces considérations empêchèrent Quentin de donner l'alarme. Une alerte intempestive eût été une lourde faute. Mais quand le bruit devint plus fort et sembla se diriger précisément vers le point où il était de garde, il pensa qu'il était de son devoir de reculer en faisant le moins de bruit possible et d'avertir son oncle, qui était le commandant du poste. Tous les archers furent debout en un instant. En moins d'une seconde, Lord Crawford se trouvait à leur tête. Détachant un archer pour aller avertir le roi et sa maison, il fit retirer sa petite troupe derrière le feu de garde, dont les lueurs auraient pu trahir sa présence. Le bruit qu'ils avaient entendu se diriger vers eux semblait avoir cessé subitement. Mais l'on percevait à distance la marche pesante d'une troupe considérable qui s'approchait du faubourg. « Je m'en vais me glisser par là, dit Quentin, et je tâcherai de vous rapporter de leurs nouvelles. « C'est cela, mon brave enfant. Tu as de bons yeux, bonnes oreilles et bonne cervelle. Mais prends garde. Pour rien au monde, je ne voudrais te perdre. » Quentin, avec son arquebuse toute prête, se glissa le long du terrain qu'il avait soigneusement étudié aux dernières lueurs du crépuscule. Et bientôt il reconnut non seulement qu'il y avait dans le voisinage un corps de troupes considérable, mais encore qu'un détachement de moindre importance, plus avancé que l'autre, était tout près de lui. Ces gens causaient tout bas, ayant l'air de ne savoir à quoi se décider. À la fin, deux de ces enfants perdus s'avancèrent si près qu'ils étaient séparés de lui à peine de la longueur d'une pique. Voyant qu'ils ne pouvaient faire retraite sans être aperçus, Quentin cria tout haut. « Qui vive ?» On lui répondit « Vive, Liège, c'est-à-dire, ajouta celui qui parlait en se reprenant, « Vive la France !» Quentin fit feu. Un homme poussa un gémissement et tomba. Aussitôt, tout le long de la colonne, qui était considérable, des coups de feu furent tirés au hasard sur Quentin, qui se hâta de se replier. Admirablement bien joué, mon brave garçon, dit Crawford. Maintenant, mes amis, replions-nous dans la cour. Ils sont trop de monde pour que nous en venions aux mains avec eux en rase campagne. La petite troupe se replia dans la cour et dans le jardin. Ils y trouvèrent, tout en bon ordre, et le roi Louis prêt à monter à cheval. Où allez-vous, sire? Dit Crawford. C'est ici que vous êtes le plus en sûreté, au milieu des vôtres. Non pas, répondit Louis. Il faut que j'aille à l'instant rejoindre le duc. Il faut qu'il soit convaincu de notre bonne foi en cet instant critique. Autrement, Liégeois et Bourguignons tomberaient sur nous à la fois. Et sautant en selle, il ordonna à Dunois de prendre le commandement des troupes françaises campées hors de la maison, et à Crawford de défendre la villa et ses dépendances, avec la garde écossaise et les autres corps qui faisaient partie de sa maison. Il leur commanda de faire avancer deux canons de rempart et deux fauconneaux, qui avaient été laissés à 1 mille en arrière, et de fortifier leur poste, mais sans pousser en avant, sous aucun prétexte, et quelque avantage qu'ils eussent obtenu. Ayant donné ses ordres, le roi, avec une petite escorte, s'en alla au quartier général du duc. Duroy, sur l'ordre du roi, s'était joint à cette escorte. Le roi trouva le duc dans un accès de colère qui le rendait incapable de remplir les devoirs d'un général, et cependant la situation était critique. Car en outre le bruit d'une furieuse bataille dans le faubourg, sur la gauche de l'armée, outre l'attaque contre le quartier général du roi qui était conduite avec énergie au centre, une troisième colonne de Liégeois, plus nombreuse que les deux autres, après avoir fait sa sortie par une brèche éloignée, filée par les sentiers, les vignes et les passages bien connus d'eux, était tombée sur le flanc droit de l'armée bourguignonne. Les Bourguignons, alarmés par les cris de « Vive la France !» de Montjoie-Saint-Denis, mêlés avec ceux de Liège et Sanglier, troublés par l'idée que leurs alliés s'étaient tournés contre eux, résistaient mollement et sans ensemble. Le duc écumant, jurant, maudissant son seigneur suzerain et tout ce qui tenait à lui, criait à ses gens de tirer sur tout ce qui était français, noir ou blanc, allusion aux écharpes blanches que Louis avait commandé à ses soldats de porter par-dessus leurs armures. L'arrivée du roi, accompagnée seulement du balafré et de Quentin, avec une dizaine d'archers, rétablit la confiance entre la France et la Bourgogne. Humbercourt, Crèvecœur et autres chefs bourguignons, dont les noms suffisaient à répandre la terreur, se précipitèrent avec empressement dans la mêlée. Pendant que quelques autres chefs se hâtaient d'amener en ligne des troupes plus éloignées qui avaient échappé à la contagion de la panique, d'autres encore se jetaient au milieu du désordre, ranimaient l'instinct de la discipline. Et pendant que le duc besognait au premier rang, criant, hachant et fauchant comme un simple homme d'armes, finissait par mettre les gens en bon ordre et déconcertait les assaillants en se servant de leur artillerie. La conduite de Louis, d'un autre côté, était celle d'un chef calme, maître de lui-même et plein de sagacité, qui ne recherchait ni n'évitait le danger, mais montrait tant de sang-froid et de sagacité que les chefs bourguignons obéissaient sans hésiter à ses ordres. Bientôt, les troupes du roi prirent l'offensive, à leur joie. Dunois et Crawford, accompagnés de l'oncle et du neveu, suivis de 200 gentilshommes français, sans compter les écuyers, et de la plus grande partie des archers de la garde, escortés de leurs suivants, filèrent à travers champs, foulant les blessés sous les pieds de leurs chevaux, et gagnèrent le flanc de la grosse troupe des Liégeois, qui avait si rudement assailli la droite des Bourguignons. À la lumière du jour grandissant, ils s'aperçurent que les ennemis continuaient à sortir en masse de la ville, soit pour continuer la bataille sur ce point, soit pour ramener en bon ordre les troupes engagées. Par le ciel, dit le vieux lord Crawford à Dunois, si je n'étais pas sûr que c'est toi qui chevauches à côté de moi, je dirais que je te vois parmi ces bandits et ces bourgeois, les guidant et les mettant en ordre avec ta masse. Seulement si c'est toi qui es là-bas, je te trouve plus grand que d'habitude. Es-tu sûr que ce chef armé n'est pas ton vresse, ton double, comme disent les Flamands? Mon vresse? Dit Dunois. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Mais cet individu est un misérable qui se permet de porter mes armoiries, et je vais le punir tout de suite de son insolence. Au nom de ce qu'il y a de plus noble, monseigneur, laissez-moi le soin de la vengeance, dit Quentin. À toi, en vérité, jeune homme, répliqua Dunois. Voilà une requête pleine de modestie. Non, ces affaires-là ne se traitent pas par procuration. Alors, se tournant sur sa selle, il cria à ceux qui l'entouraient. Gentilhommes de France, en ligne de bataille et les lances en arrêt, ouvrez passage aux rayons du soleil levant, à travers les bataillons de ces pourceaux de Liège et de ces sangliers des Ardennes, qui font la mascarade avec nos antiques armoiries. Les hommes d'armes répondirent en criant: à Dunois, Orléans à la rescousse. Et avec leur chef au centre, ils chargèrent au grand galop. L'ennemi fit bonne contenance. Sauf quelques officiers montés, c'était un corps d'infanterie. Appuyant contre leurs pieds le talon de leur lance, le premier rang à genoux, le second penché, le troisième présentant les pointes de ses lances par-dessus les deux autres rangs, ils offrirent à la charge des hommes d'armes la même résistance que le hérisson oppose à ses ennemis. Peu d'entre les hommes d'armes réussirent à pratiquer une trouée dans ce mur de fer. Mais Dunois fut de cela. De deux coups d'éperon, il enleva son cheval, lui fit faire un bond de 12 pieds, tomba au milieu de la phalange et piqua droit vers l'objet de son animosité. Quelle ne fut pas sa surprise de retrouver Quentin à ses côtés, combattant en ligne avec lui. La jeunesse, un courage désespéré et la détermination de réussir ou de mourir l'avaient maintenu de front avec le meilleur chevalier de l'Europe, car telle était à cette époque la réputation de Dunois. Réputation justement méritée. Leurs lances furent bientôt rompues, mais les lansquenets ne pouvaient résister aux coups de leurs lourdes épées, pendant que les deux chevaux et les deux cavaliers, complètement bardés d'acier, n'avaient pas grand-chose à souffrir de leurs lances. Dunois et Durward rivalisaient encore d'efforts pour arriver jusqu'à l'endroit où celui qui avait usurpé les armoiries de Dunois s'acquittait du devoir d'un bon et vaillant capitaine. Lorsque Dunois, apercevant la hure de sanglier avec ses défenses, armoiries habituelles de Guillaume de la Marck, cria à Quentin. Tu es digne de venger les armes d'Orléans. Je te laisse cette tâche. Balafré, soutenez votre neveu, mais que personne ne dérange Dunois dans sa chasse au sanglier. Il va sans dire que Durward accepta avec joie cette division du travail, et chacun des deux se mit à serrer de près son ennemi, protégés en arrière par les quelques hommes d'armes qui avaient pu les suivre. Quentin faisait des efforts surhumains pour atteindre le principal objet de sa poursuite, qui était encore en vue, luttant, essayant par ses cris et par son exemple de renouveler la bataille, et bravement soutenu par une petite troupe de lansquenets d'élite. Le balafré et quelques-uns de ses camarades s'attachèrent à Quentin, émerveillés de la bravoure extraordinaire d'un si jeune soldat. Assemblant autour de lui, par ses cris et par quelques sons qu'il tira de son corps, les partisans désespérés de sa fortune désespérée, la Marque essaya de battre en retraite, vers une partie de la ville d'où il espérait gagner l'autre rive de la Meuse. Ceux qui le suivaient immédiatement formèrent un corps compact d'hommes bien disciplinés, qui, n'ayant jamais fait quartier, n'étaient pas disposés à demander quartier pour eux-mêmes. Ils se rangèrent en si bon ordre qu'ils occupaient toute la largeur de la rue, le long de laquelle ils firent retraite lentement, faisant tête de temps à autre pour tenir en échec ceux qui les poursuivaient. Beaucoup de ces derniers cherchèrent une occupation moins dangereuse et commencèrent à forcer les portes des maisons pour piller. Il est donc probable que la Marque aurait réussi à s'échapper grâce à son déguisement s'il n'avait pas été suivi avec tant d'acharnement par Quentin, par son oncle le balafré, et par quelques-uns de ses camarades. À chaque temps d'arrêt, il y avait un combat furieux entre les lansquenets et les archers écossais, et chaque fois Quentin cherchait à rejoindre la Marque. Mais ce dernier, qui pour le moment n'avait d'autre objet que d'opérer sa retraite, semblait se dérober aux efforts que faisait le jeune écossais pour l'amener à un combat singulier. La confusion était générale dans toutes les directions. Les lamentations et les cris des femmes, les hurlements des bourgeois, en proie aux violences de la soldatesque, retentissaient aigus et horribles parmi les cris de bataille. jusqu'au moment où la marque, battant toujours en retraite à travers ces scènes infernales, venait de passer devant une petite chapelle d'une sainteté particulière, les cris de France, France, Bourgogne, Bourgogne, lui apprirent que la retraite était coupée. Conrad, dit-il, prenez tous ces hommes avec vous, chargez ces gens qui arrivent, et faites une trouée si vous pouvez. Pour moi, tout est fini. Je suis homme, maintenant que me voilà aux abois, à envoyer quelques-uns de ces vagabonds d'Écossais me précéder en enfer. Son lieutenant lui obéit. Avec la plus grande partie des lansquenets qui lui restaient, il se précipita vers le bout de la rue pour charger les bourguignons qui s'avançaient, faire une trouée et s'échapper. Six des hommes les plus braves de la marque restèrent pour mourir avec leur maître et firent face aux archers, qui ne leur étaient pas de beaucoup supérieurs en nombre. Sanglier, sanglier, holà, gentilhomme d'Écosse! S'écria en brandissant sa masse le scélérat dont rien ne pouvait abattre le courage. Qui veut gagner une couronne? Qui frappe le sanglier des Ardennes? Vous, jeune homme, vous en avez envie, ce me semble. Mais il faut la gagner, cette couronne, avant de la porter. Quentin n'entendit qu'imparfaitement ces paroles, qui se perdirent en partie dans la cavité du casque, mais le geste les expliquait clairement. À peine eut-il le temps de prier son oncle et ses camarades, en leur qualité de gentilhomme, de rester neutre, que Lamarque se précipita sur lui, bondissant comme un tigre et brandissant sa masse d'armes. Mais Quentin, qui avait l'œil vif et le pied léger, fit un saut de côté, et esquiva un coup qui lui aurait été certainement fatal. Alors ils en vinrent aux mains, pendant que leurs camarades, de part et d'autre, demeuraient simples spectateurs. Les coups du brigand désespéré avaient beau tomber, aussi pressés que ceux du marteau sur l'enclume. L'agilité de Quentin et sa parfaite connaissance de l'escrime à l'épée lui permettaient non seulement d'esquiver les coups, mais de les rendre avec son arme, moins bruyante, mais plus dangereuse. La force effroyable de son antagoniste commençait à s'abattre, et le sol qu'il foulait aux pieds n'était plus qu'une mare de sang. Cependant, il tenait bon, quand même avec une énergie indomptable. La victoire de Quentin semblait douteuse, ou tout au moins éloignée, quand une voix de femme derrière lui prononça son nom et cria « à l'aide, pour l'amour de la bienheureuse Vierge !» Il tourna la tête et du premier coup d'œil reconnut Gertrude, la fille de Pavillon. Son manteau lui avait été arraché des épaules. Un soldat français l'entraînait de force hors de la chapelle, où elle avait cherché un refuge. « Attends-moi un instant !» cria Quentin à Lamarque, et il s'élança au secours de Gertrude. « Je ne suis aux ordres de personne, » dit Lamarque, en brandissant sa masse d'armes et en faisant un mouvement de retraite. Il n'était peut-être pas fâché d'échapper à un aussi redoutable assaillant. « Vous serez pourtant au mien, s'il vous plaît, » s'écria le balafré. « Je n'entends pas que l'on se moque de mon neveu. » En parlant ainsi, il attaqua Lamarque avec son épée à deux mains. Quentin, cependant, éprouva quelques difficultés à tirer Gertrude de peine. Le soldat, soutenu par ses camarades, refusait de la lâcher. Et pendant que Durward, aidé de deux ou trois de ses compatriotes, se mettait en mesure de les contraindre, la première chance que la fortune lui eût offerte d'arriver à la richesse et au bonheur lui glissait, pour ainsi dire, entre les doigts. Car lorsqu'il se trouva dans la rue avec Gertrude qu'il venait de délivrer, il n'y avait plus personne en vue. Oubliant la situation critique de Gertrude, il allait s'élancer à la poursuite du sanglier des Ardennes, lorsque la jeune fille, s'attachant à lui avec l'énergie du désespoir, s'écria « Pour l'amour de l'honneur de votre mère, ne m'abandonnez pas ici. Vous êtes gentilhomme, conduisez-moi à la maison de mon père, qui vous a abrité vous et Madame Isabelle. Pour l'amour d'elle, ne me quittez pas. » Cet appel désespéré était irrésistible. Disant à part soi adieu, avec une amertume sans nom, à toutes les joyeuses espérances qu'il avait soutenues dans l'action, qui lui avaient fait traverser toutes les scènes de cette journée sanglante, et qui, à un certain moment, avait semblé si près de se réaliser, Quentin conduisit Gertrude jusqu'à la maison de Pavillon, et arriva à temps pour protéger la maison et le syndic lui-même contre la fureur d'une soldatesque licencieuse. Cependant, le roi et le duc de Bourgogne entraient dans la ville à cheval, par une des brèches. Tous les deux étaient en armure complète, mais le duc, couvert de sang depuis le cimier jusqu'aux éperons, fit franchir la brèche à son cheval de bataille avec une sorte de fureur. Louis avait l'air de conduire une procession. Ils dépêchèrent l'ordre d'arrêter le sac de la cité, qui avait déjà commencé, et de rassembler leurs troupes dispersées. Les princes eux-mêmes se dirigèrent vers la cathédrale, d'abord pour prendre sous leur protection quantité de gens distingués qui avaient cherché un refuge, ensuite pour tenir une sorte de conseil de guerre, après avoir entendu la grand-messe. Affairé comme beaucoup d'officiers de son rang à rassembler les troupes qui étaient sous ses ordres, Lord Crawford, au tournant d'une rue, rencontra le balafré qui se dirigeait d'un pas tranquille vers la rivière. Il tenait à la main une tête humaine, les doigts passés par les mèches sanglantes, avec la plus sereine indifférence. Eh bien, Ludovic, lui dit son commandant, qu'est-ce que vous faites de cette charogne? C'est le résultat d'une petite affaire que mon neveu avait bien commencée et presque finie, et à laquelle j'ai mis la dernière main, dit le balafré. Il s'agit d'un bon garçon que je viens de dépêcher, et qui, avant d'en finir, m'a demandé de bien vouloir jeter sa tête dans la Meuse. Les gens ont vraiment de singulières fantaisies. Et vous allez jeter cette tête-là dans la Meuse? Demanda Crawford, après avoir considéré l'horrible débris avec attention. Mais oui, vraiment, répondit Leslie. Quand on refuse à un mourant sa dernière requête, on est hanté par son esprit, et moi j'aime à dormir tranquille la nuit. Courez le risque de voir l'esprit, l'ami, reprit Crawford. On fait plus de comptes sur les morts que vous ne pouvez l'imaginer. Dans tous les cas, venez avec moi. Pas un mot de plus. Venez avec moi. Quand la grand-messe eut été chantée dans la cathédrale de Liège, et que la ville terrifiée fut rentrée dans un ordre tel quel, Louis et Charles, entourés de leur père, se mirent en devoir d'écouter les réclamations de ceux qui avaient bien mérité au cours de la bataille. Ils reçurent d'abord celles qui avaient trait au comté de Croix et à la jolie comtesse. Au grand désappointement de plusieurs gentilshommes qui se croyaient sûrs de remporter le prix, il fut déclaré que leurs prétentions semblaient entachées de quelques doutes et de quelques mystères. Crèvecœur montra une peau de sanglier semblable à celle que la marque portait d'habitude. Dunois produisit un bouclier fendu en deux, avec les armoiries de la marque. D'autres encore exhibant des preuves du même genre, prétendirent avoir dépêché le meurtrier de l'évêque. La riche récompense promise à ceux qui apporteraient la tête de la marque avait été fatale à tous ceux qui portaient des armes semblables aux siennes. Il y avait grand bruit et grande contestation parmi les compétiteurs. Charles, regrettant en lui-même la promesse téméraire qui avait placé la main et la fortune de sa belle vassale sur un coup de dé, espérait trouver quelque biais pour échapper à ces réclamations contradictoires. Quand Crawford pénétra dans le cercle, traînant après lui le balafré tout penaud et tout confus, et dit « Foin de vos pinces, de vos peaux et de votre fer colorié. Nul, sauf celui qui a tué le sanglier, ne peut en montrer les défenses. » En parlant ainsi, il jeta sur le plancher la tête sanglante, que l'on reconnut tout de suite pour celle de la marque, à cause de la singulière conformation de ses mâchoires. Crawford, dit Louis, pendant que Charles gardait le silence, morose comme un homme qui vient d'éprouver une surprise désagréable. Je crois que c'est un de mes fidèles Écossais qui a remporté le prix. C'est Ludovic Leslie, que nous appelons le balafré, répondit le vieux soldat. Mais est-il noble? Demanda le duc. Est-il gentilhomme de naissance? Sinon, notre promesse est nulle. C'est, dit Crawford, un morceau de bois assez laid et assez déplaisant, mais je garantis que c'est une des branches de l'arbre des Rôtes, qui sont aussi nobles qu'aucune des maisons de France et de Bourgogne. Alors, dit le duc, il n'y a pas à revenir là-dessus, et la plus belle et la plus riche héritière de Bourgogne sera la femme d'un grossier soldat mercenaire comme celui-là, ou mourra séquestrée dans un couvent. Elle, la fille unique de notre fidèle Reynold de Croix. J'ai été trop prompte. Et son front se voila d'un nuage, à la grande surprise de ses pairs, qui lui avait rarement entendu exprimer le moindre regret à propos des conséquences nécessaires d'une résolution une fois adoptée. Attendez un instant, reprit Lord Crawford. Cela peut tourner mieux que votre grâce ne se l'imagine. Écoutez seulement ce que ce cavalier a à dire. Allons, l'ami parle, et la peste soit de toi, ajouta-t-il en se tournant vers le balafré. Mais le balafré n'avait point accoutumé de se trouver dans de si imposantes assemblées. Ayant donc débuté par un gros ricanement enroué et par deux ou trois effrayantes contorsions de la face, tout ce qu'il trouva à dire, ce fut qu'un certain Saunders Supplejoe, et puis ce fut tout. Plaise à votre majesté et à votre grâce, dit Crawford, je vais donc parler pour mon compatriote, mon vieux camarade. Vous saurez donc qu'un voyant de son pays, nommé Saunders Supplejoe, lui a prophétisé que la fortune de sa maison se ferait par un mariage. Mais comme il n'est plus aussi jeune qu'il l'a été autrefois, comme il aime le cabaret mieux que le boudoir des dames, bref, comme il a certains goûts et certaines habitudes qui feraient de la grandeur un vrai fardeau pour lui, il a agi suivant mes conseils et cède les droits qu'il a acquis en achevant la marque à celui qui avait réduit le sanglier aux abois. Et celui-là, c'est son neveu, le fils de sa sœur. Je suis garant des services et de la prudence de ce jeune homme, dit le roi Louis, enchanté de voir un si beau prix tomber entre les mains de quelqu'un sur qui il avait de l'influence. Sans sa prudence et sans sa vigilance, c'en était fait de nous. C'est lui qui nous a avertis de la sortie prochaine. Je lui dois quelques réparations, reprit Charles, pour avoir douté de sa véracité. Et moi, dit Dunois, je puis attester sa vaillance comme homme d'armes. Mais, objecta Crèvecœur, de ce que son oncle est un gentillâtre écossais, il ne s'ensuit pas nécessairement que le neveu en soit un aussi. Il est de la maison de Durward, dit Crawford. Il descend de cet Alan Durward qui fut grand intendant d'Écosse. Si c'est du jeune Durward qu'il s'agit, dit Crèvecœur, je ne fais plus d'objection. La fortune s'est déclarée trop nettement en sa faveur pour que je songe à lutter contre cette dame capricieuse. Mais ce qui est étrange, c'est de voir comme tous ces Écossais sont attachés les uns aux autres, depuis le seigneur jusqu'au valet d'écurie. Highlanders, épaule contre épaule, répondit Lord Crawford, riant de la mortification de l'orgueilleux bourguignon. Il nous reste à savoir, reprit Charles d'un air pensif, quels peuvent être les sentiments de la dame au sujet de cette heureuse aventure. Par la messe, s'écria Crèvecœur, je n'ai que trop de raisons de les connaître. Votre grâce la trouvera plus disposée à obéir que dans une circonstance antérieure. Mais pourquoi envierais-je à ce jeune homme son heureuse chance? Après tout, c'est à force de bon sens, de fermeté et de vaillance qu'il a conquis la fortune, le rang et la beauté.